Because you're worth it. You're worth it.
我们都值得拥有。
We're worth it. 你值得拥有。
Parce que nous le valons bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Vous le valez bien.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transistor, une nouvelle émission que je vous propose et qui a pour but de partir à la rencontre de personnes dans l'école, des gens qui ont des choses à dire, qu'ils soient élèves, étudiants ou personnels, des gens qui ont des choses à nous dire par leur parcours, par leurs activités et des gens surtout qui ne sont pas forcément visibles mais qui font beaucoup, des gens que l'on connaît sans vraiment connaître en fait. Bienvenue dans ce premier numéro de Parce qu'ils le valent bien.Et pour ce premier numéro, c'est avec un sportif que je me trouve. Vous connaissez bien sûr tous l'AS, l'association sportive, ses membres et les multiples activités et événements qu'elle organise. Mais connaissez-vous les professeurs de PS qui, à l'école, encadrent moult cours et activités ? Alors c'est avec l'un d'entre eux que je suis aujourd'hui puisqu'il s'agit de Mathieu Kidou, en studio avec moi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clément.
Et alors la playlist de l'émission, c'est toi qui l'a concoctée, c'est toi qui l'as choisi et on va écouter un premier extrait.
En flingue dans la cervelle, je me nourris avec. L'état fait tout pour nous oublier. Si je traîne en papier noir, je fais chuter le prix de l'immobilier. Ouais mec, bidon d'essence allumé. Tu vois pas clair, ça m'en fume, si allumé.
Alors Booba sur Transistor, alors Mathieu, pourquoi ce choix ?
Ah ben, j'ai du mal à cacher que je suis un petit banlieusard qui n'a pas totalement oublié ses passions adolescentes. Et le rap a toujours été pour moi quelque chose d'important, à la fois dans le message parfois contestataire et puis surtout dans le son.
On l'entend bien, le message contestataire.
Contestataire, moment, même un peu rebelle, sans idéologie derrière, mais non, plutôt le son, la dimension rythmique, et j'ai toujours été très sensible à cette musicalité-là.
D'accord.
Ce qui n'exclut pas d'autres goûts qu'on verra par la suite.
Non, maintenant on va les entendre.
C'est ma première racine adolescente.
C'est le rap, d'accord.
Ouais.
D'accord, bon bah. Et puis on va entendre tes autres racines musicales un peu plus tard dans l'émission. Alors on va commencer par découvrir un peu ton parcours et tes activités à l'ENS, avant d'aborder, et je n'en dis pas plus maintenant, tes activités de recherche. Alors, donc tu es professeur à l'ENS, tu es Prague, donc professeur agrégé travaillant dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et
alors,
sportif, du coup, qui va avec
En petit banlieusard, j'ai fait ma faculté donc, en STAPS à Orsay, donc à l'Université Paris 11. À l'issue de mes deux années de DUG, été recruté.
Donc le DUG, c'est les deux premières années, c'est la L1 et la L2 dans
L2
l'ancien système.
De l'époque, j'ai été recruté en tant que normalien à l'ENS de Cachan, antenne de Kerlan, donc il s'appelait comme ça à l'époque.
Oui, qui est maintenant l'ENS Rennes, indépendante.
L'ENS de Rennes, voilà, mais je n'ai pas connu l'indépendance. donc voilà, j'ai fait mon cursus en STAPS là-bas, à l'issue duquel j'ai passé mon agrégation en 2006, donc ça commence à remonter un petit peu.
Mais non.
Et donc, à l'issue de cette agrégation-là, j'ai commencé à développer des activités de recherche qui m'ont mené en thèse. À l'issue de ma thèse, j'ai été recruté à l'ENS, ce qui était mon premier poste.
D'accord.
Et donc, on le verra par la suite, mais depuis, j'essaye systématiquement de conduire de front mes activités d'enseignement à l'ENS et mes activités de recherche.
On va en parler un petit peu, et du coup, on va en parler un petit peu après. Tu es à l'ENS depuis combien de temps ?
Alors, j'ai été recruté en septembre 2010, donc j'attaque ma sixième année.
D'accord, l'année de la fusion en plus.
Tout à fait, donc j'ai pas connu le passif, par contre j'ai connu les restructurations qui étaient en cours. Il était assez délicat de savoir quels étaient les interlocuteurs, puis ça s'est régularisé et finalement une petite école, on découvre assez vite le fonctionnement, même s'il est parfois opaque parce qu'il y a des circuits administratifs à respecter.
Qu'il faut connaître,
qu'il faut respecter, les susceptibilités sont parfois engagées lorsqu'on ne les respecte pas, mais... L'école étant petite, je me suis adapté assez vite.
Oui. Et donc, dans ton parcours, comme tu étais en STAPS, je vais recommencer. Et donc, comme tu étais en STAPS, tu devais pratiquer, je crois, un ou plusieurs sports à haut niveau. Alors, quels sont ces sports et quels sont les sports qui comptent pour toi
Alors à haut niveau, bon, je relativise immédiatement parce que je n'ai pas été un sportif de haut niveau. J'étais un sportif de niveau correct Donc j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. J'ai poursuivi de façon quasi exclusive le foot jusqu'à 17 ans. À partir de 17 ans, donc, je suis entré en STAPS. Et là, je me suis rendu compte qu'être un spécialiste en STAPS, c'était pas forcément une bonne solution.
Pourquoi donc,
Parce que le footeux n'est par définition pas très souple, il n'est pas forcément très endurant. J'étais un gardien de but. Donc la panoplie des qualités physiques exigées en STAPS était assez étendue. Et moi, avec ma spécialisation, je n'étais pas forcément très adapté. Donc à partir de cette première année de STAPS, diversification complète. Donc,
c'est là que tu es passé vers les sports de combat.
Voilà, j'ai été amené à pratiquer les sports de combat, à me mettre un peu plus en profondeur dans le badminton, dans le hand, avec à la fois l'optique plaisir personnel et l'optique préparation à l'agrégation.
D'accord.
Donc voilà, sur 3 années, je me suis mis à fond handball badminton dans l'optique des épreuves.
Parce qu'à l'agrégation, tu dois présenter...
Voilà, handball et badminton, c'est les deux activités que j'ai présentées, non pas le football, hein, qui n'était pas inscrit dans les programmes. Donc j'ai été amené à me diversifier progressivement.
D'accord.
Et une fois passé l'agrégation, donc qui était vraiment une sanction purement utilitaire, j'ai pu vraiment m'adonner à mes centres d'intérêt, qui sont d'un côté tout ce qui est sport collectif, donc ouais. Foot, hand, et d'un autre côté sport de combat. Donc là, j'ai essayé pareil de diversifier un petit peu mon parcours.
D'accord. Et donc dans les activités sportives que tu encadres à l'école, alors je crois qu'il y a le hand, qu'est-ce que tu encadres d'autre?
Alors à part le hand que j'encadre au niveau féminin et masculin, j'encadre également le football, pareil, féminin, masculin, ouais. Le cours de combat mixte qui s'adresse aux garçons comme aux filles, et le cours de préparation physique, renforcement musculaire qui est également ouvert à la fois aux filles et aux garçons, au personnel comme aux étudiants.
Et qui est ouvert à tous et dans lequel on souffre,
je tiens à le préciser. On souffre, mais avec le sourire.
Mais utilement, oui, et avec le sourire. Et donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les activités sportives que tu encadres, je m'interroge en fait sur le rapport que vous avez, toi et Richard, qui est ton collègue comme professeur de PS, avec l'AS. Comment ça se passe avec l'association sportive? Comment travaillez-vous avec eux? Comment participez-vous parfois aux événements qu'ils encadrent de manière sportive?
Alors l'AS, qui est entièrement gérée par les étudiants, et le DAPS géré par les enseignants. Donc Richard est le responsable du département des activités physiques et sportives. On est 2 statutaires, Richard et moi, qui fonctionnons également avec 11 vacataires. Donc le fonctionnement de l'AS et du DAPS doit être envisagé comme étant séparé, mais on travaille systématiquement ensemble.
Oui, c'est très complémentaire.
En gros, le DAPS assure tous les cours qui sont encadrés par des professionnels, soit les statutaires, soit les vacataires. La gestion des installations, la gestion du matériel, des salles de musculation, tout ça, c'est géré par le DAPS. L'AS gère de son côté tout ce qui est adhésion.
Ouais.
Elle gère une partie des stages qu'elle organise elle-même, et elle aide au fonctionnement des stages organisés par les professeurs de PS,
d'accord,
à savoir la communication, les inscriptions, tout le contact direct avec les étudiants.
Ouais.
Est permis par l'AS, ce qui serait difficile pour nous à 2 enseignants d'assurer le contact avec 1400-1500 adhérents.
Oui, bien sûr, c'est
donc on travaille réellement de concert. Les 2 professeurs de PS sont membres de droit de l'AS,
ouais.
Donc on fait partie du bureau restreint de l'AS. Et en gros, on a une coordination qui est à la fois indispensable et à la fois riche, parce
oui.
qu'on a des étudiants qui sont au contact de leurs camarades, donc qui ont une vision d'ensemble
oui, bien
sur
sûr.
Les demandes qui émanent des adhérents. Et nous, on est parfois les garde-fous qui mettons en garde les jeunes enthousiastes de l'AS en leur disant attention, ça c'est pas forcément réglementaire, vous
ouais.
en faites peut-être un peu trop. Donc
d'accord.
on a disons des atouts spécifiques à faire valoir mutuellement.
Et vous participez aux événements, par exemple je pense aux inter-ENS
Alors moi, j'y ai participé en tant qu'ancien étudiant de Kerlan,
oui,
donc
sûr.
En tant que pratiquant.
Et des choses à nous faire partager sur ces inter-ENS.
Non, j'étais quelqu'un de très sage,
ah,
très sobre.
On s'en doute.
C'est vrai.
Et surtout venant de l'ENS de Bretagne.
Voilà, porter un peu sur la boisson. Disons que j'ai pu bénéficier de cette expérience, moi, en tant que pratiquant, pour savoir que c'était réellement un événement associatif étudiant.
Ouais.
dans lequel le sport était pas seulement un prétexte, c'était un enjeu important, mais qui était avant tout
enjeu
associatif, festif, convivial. Donc, ma position personnelle est de responsabiliser les étudiants dans cet événement et d'éviter de mettre une présence enseignante qui risquerait de fausser un petit peu l'esprit.
Oui, pour que ça reste un événement associatif étudiant.
Parce que la logique n'est pas une logique compétitive, c'est pas une logique d'encadrement ultra professionnel. Donc, moi, j'essaye de garder relativement des distances vis-à-vis de cet événement pour ne pas fausser la philosophie de base. Mon collègue est beaucoup plus présent. Il a essayé de créer une charte qui fonctionne avec les différentes ENS afin d'avoir globalement
une
trame commune qui permettrait à chaque nouvelle édition des inter-ENS d'avoir quand même quelque chose de partagé.
Ouais, d'accord.
C'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des tensions entre logique de l'enseignant, logique des étudiants, logique des associations, logique de la présidence.
Oui.
Donc ça ramène pas mal de tensions entre des logiques différentes. Et je pense que de temps en temps, l'enseignant, en tout cas moi-même, c'est l'attitude que j'adopte, doit prendre un petit peu de recul sur des événements qui sont avant tout étudiants et festifs.
Une dernière question pour finir sur cette partie un petit peu sur ce que tu encadres, c'est sur les étudiants qui viennent aux cours de sport et dans les activités. Quel est le profil un petit peu, alors le ratio filles-garçons, littéraire, scientifique, qu'est-ce que ça donne un petit peu?
Alors, c'est à la fois une volonté, à la fois un constat. Depuis 2010, la part des littéraires, donc cite Descartes, a largement augmenté au point d'être aujourd'hui à la parité complète,
d'accord,
voire même en surreprésentation, y compris dans des activités qui seraient a priori plutôt axées historiquement sciences mono,
comme
le foot, qui peut être vraiment dans une répartition équivalente. Et pareil, dans les cours de combat que j'assure.
D'accord.
La représentation mono-Descartes tend vraiment à la parité. Et donc, la fusion dans les cours de sport est quelque chose de réussi.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de la fusion en se demandant si elle a vraiment bien fonctionné. Et là, dans le cadre vraiment
au niveau sportif, en dépit des différences d'habitus des scientifiques et des littéraires, on retrouve une parité qui est vraiment très intéressante parce que le département des enseignements transversaux dans lequel le DAPS se situe est vraiment la seule instance de l'ENS, mis à part la dimension festive, où les étudiants peuvent se brasser.
D'accord.
Et donc là, la fusion a vraiment été réussie au niveau sportif et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça amène des logiques et des façons d'envisager le sport vraiment, vraiment différentes. Au niveau de la parité, donc j'ai certaines activités que j'encadre qui sont séparées, comme le handball, le football. Donc là, on est vraiment dans des collectifs séparés.
Ouais.
Par contre, l'effectif moyen chez les garçons et chez les filles dans ces activités est équivalent.
D'accord.
Ce sur quoi j'essaie également de travailler, c'est l'idée d'un groupe. Par exemple, en handball, que les filles viennent encourager les garçons, que les garçons viennent encourager les filles.
Qu'il y ait une vraie
solidarité,
qu'il y ait
vraiment un esprit activité. Qu'on ne soit pas membre de l'équipe masculine de handball, mais membre du handball à l'ENS.
Oui, oui, oui.
Et qu'il y ait des synergies.
Une vraie communauté sportive.
Voilà. Et donc là, c'est vraiment le point positif que je peux retirer du week-end de cohésion sport collectif qu'on a organisé pour la première fois.
C'était
cette année,
ce week-end de cohésion.
C'était le premier week-end d'octobre.
D'accord.
Et donc, qui a eu quelques petites difficultés d'organisation, des effectifs qui étaient pas aussi élevé qu'on souhaitait. Par contre, dans l'objectif qui est de souder des
collectifs, ça a vraiment marché.
Ça a vraiment marché.
Ah, c'est...
Et donc, c'est plaisant le week-end suivant, le mois suivant, de voir les filles qui ont participé à ce week-end venir encourager les garçons qu'elles ont pu connaître. Et on sort un petit peu de l'individualisme qui est quand même malgré tout une des propriété de cette école, à savoir venir au sport, encourager lorsqu'on ne joue pas.
Ouais.
Et ça, c'est quelque
chose
que venant...
Ça, c'est encore un peu difficile à...
Voilà, c'est difficile. Et venant d'un esprit club, donc j'ai toujours évolué dans des clubs sportifs extra-universitaires, c'est une philosophie qui est présente. Et donc, sans essayer de l'importer de façon absolue et abrupte à l'ENS, j'aimerais qu'elle se développe un peu plus au détriment un peu d'une logique « je fais mon sport, je viens, sinon je reste chez moi ».
D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait plaisant. Et après, concernant les activités que j'encadre de façon mixte, à savoir le cours de musculation, le cours de combat, les filles sont légèrement moins représentées. Par contre, je me fais vraiment une volonté de conserver tout le temps un effectif féminin, y compris dans mon cours de combat. Donc ça suppose de l'adapter, ça suppose de modérer parfois l'intensité, ouais. de calmer les ardeurs de certains garçons pour ne pas faire fuir les...
Ouais. Donc et pour vraiment assurer un esprit
voilà, un
global,
esprit d'ouverture, on est là pour progresser ouais. techniquement, on n'est pas là pour démontrer qu'on est supérieur physiquement. Mm. Et donc au niveau du cours de combat, avoir un ratio d'un tiers de filles, c'est quelque chose qui est très important pour
ouais.
moi.
Ouais, d'accord. Alors tu parlais d'habitus tout à l'heure, ce qui nous fournit une transition vers la deuxième partie de cet entretien, puisqu'on va s'intéresser un peu à tes activités de recherche et à tes activités un petit peu plus théoriques. Mais avant, on va découvrir un petit peu plus ta playlist avec Amy Winehouse, Back to Black. C'est ce qu'on disait il y a 30 secondes, tu as une autre casquette Mathieu, puisque si tu encadres donc, toutes ces activités sportives à l'ENS, tu as aussi des activités de recherche, tu nous disais que tu t'es forcé vraiment de les concilier, donc tu es docteur en STAPS, avec une thèse dont l'intitulé est le suivant, les sciences du sport face à la pluralité épistémique. Alors j'ai vu que ce concept de pluralité avait tendance à revenir beaucoup dans les articles que tu avais écrits, qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors la pluralité, ça définit une situation où deux entités de même nature vont prétendre à la vérité, mais sont a priori incommensurables.
Donc, d'accord.
C'est-à-dire deux entités, d'un côté A, d'un côté B, prétendent toutes les deux à la vérité.
Mais sont totalement différentes.
Mais sont différentes, sont incompatibles, ne peuvent pas se superposer.
D'accord.
Comment l'humain, le scientifique, le prof de PS, gère une situation où deux entités sont également valables indépendamment l'une de l'autre, mais ne peuvent pas toutes les deux être conjointement...
Et par exemple, pour avoir un exemple concret, pour bien visualiser, qu'est-ce que cela représente dans un cours de sport, cette situation de pluralité ?
Alors, dans un cours de sport, on peut avoir des étudiants qui ont une vision de la pratique complètement différente. Par exemple, en handball, on peut avoir des joueurs exclusivement focalisés vers le duel, gagner un contre un contre leur défenseur, tandis que d'autres vont avoir plutôt une logique de circulation de la balle, accélérer le jeu. Donc comment concilier des joueurs pour qui, de façon spontanée, il va être plutôt logique d'aller vers le but pour gagner son un contre un, ouais. ou alors de jouer beaucoup plus horizontalement et d'aller libérer la balle pour son partenaire. Donc l'idée, c'est d'essayer d'articuler au sein d'un collectif, ces différentes sensibilités pour créer un tout qui soit efficace et dans lequel chacun puisse se retrouver. Après, donc ça, c'est vraiment un type très spécifique de pluralité.
Ouais, ouais,
mais je suis actuellement en train de réfléchir à un article pour une revue de philosophie sur le thème beaucoup plus général. Le titre de l'article, c'est « Vivre dans un monde pluriel ».
Ouais.
Oui, mais comment ? Un exemple très simple. Avec le nombre croissant de divorces, on a des enfants qui sont parfois confrontés à des systèmes de valeurs
oui.
parentaux complètement antagonistes.
Oui, selon qu'ils aillent chez leur mère ou
chez leur mère, ils ont des logiques à la fois dans le mode de vie qu'ils connaissent et à la fois dans les systèmes d'éducation.
Oui.
Ce qui va être autorisé chez l'un va être interdit chez l'autre.
Oui, c'est les situations qu'on entend souvent à propos des familles recomposées.
Et donc, on a une prolifération de ce type de situation de pluralité. Comment l'enfant, par exemple, dans ce cas-là, gère cette pluralité ?
D'accord.
Est-ce qu'il va essayer de produire une synthèse ? Est-ce qu'il va opter radicalement pour l'un des pôles ? Est-ce que, suivant les contextes, il va activer plutôt le système de valeurs maternelles ou le système de valeurs paternelles ? Je pense qu'il y a un enjeu éthique très important parce que à l'époque où on vante la diversité, on vante la pluralité, on a beaucoup de mal à la gérer dans les faits.
Oui, oui, oui.
Et donc, il n'est pas satisfaisant, par exemple, à l'époque du multiculturalisme, de voir un repli vers la pensée unique. Le repli vers la pensée unique, en fait...
Qu'est-ce que tu appelles repli vers la pensée unique ?
Bah, ça peut être toutes les dérives sectaires,
ouais.
les dérives intégristes. Pour moi... aller dans cette pensée unique, c'est un échec de l'apprentissage de la vie dans un monde pluriel. C'est une situation très confortable. Lorsque j'ai A et que j'ai B, les deux se valent, il est plus simple de s'orienter à fond dans un axe et de nier complètement
l'autre.
La synthèse est beaucoup plus difficile à faire. C'est une des solutions, la synthèse, mais ça suppose un apprentissage.
Oui.
Et donc, j'essaye d'étudier le paradoxe, hein, d'un côté, une prolifération des situations de pluralité, et de l'autre, une difficulté à gérer cet état de fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le monde du sport, mais plus généralement à un niveau philosophique.
Et alors, justement, dans le monde du sport, comment articules-tu en fait à la fois la pratique sportive pure et cette activité de recherche théorique? Je pense tous les cours que tu donnes et les activités que tu encadres, comment cela peut nourrir ton expérience théorique?
Alors le rapport que j'entretiens entre mon activité de recherche et mon activité d'enseignement, il n'est pas du tout direct, il n'est pas dans une logique d'application, de prescription. En aucun cas, ce que je fais en recherche ou ce que je lis dans le cadre de mes recherches ne va dicter ma pratique. La pratique possède ses logiques propres, a une autonomie, elle a une variabilité, elle est contextualisée et aucune recherche ne peut prescrire absolument ce que je vais faire. Par contre, la recherche, ça me permet d'être toujours en éveil, c'est-à-dire face à des comportements qui sont parfois complexes, inintelligibles, avoir des petits garde-fous théoriques pour me dire, tiens, ce comportement, je pourrais essayer de l'interpréter à l'aune de telle approche, de telle réflexion. Donc, c'est vraiment, des ressources pour interpréter des conduites qui sont parfois un petit peu difficiles à comprendre spontanément. Et puis, de façon encore plus fondamentale, c'est plutôt dans la méthode de travail. Lorsqu'on est enseignant, sur le terrain, on est confronté à des problèmes. Oui. Face à ces problèmes, il faut se mettre dans une logique de compréhension. Déjà, il faut décrire le problème, il faut essayer de l'interpréter, on émet des hypothèses, on essaye de tenter des choses pour résoudre les soucis.
Oui, on voit tous ces jeunes enseignants qui sont lâchés dans une classe.
Et parce que les variables sont nombreuses. Il y a une activité d'enseignement, mais en même temps, il faut animer un groupe, il y a un collectif qu'il faut souder. Donc, vraiment, le complexe est là d'emblée lorsqu'on est sur le terrain. Par contre, on a une méthode de résolution de travail. Face à un problème, on peut avoir certaines étapes. Et la façon dont j'aborde un problème théorique peut se rapprocher de la façon dont j'aborde un problème pratique.
D'accord.
Donc, vraiment, à un niveau méta, c'est une logique de résolution qui m'anime. Et c'est ce lien que je fais réellement entre mon activité de recherche et mon activité de terrain. Après, à un niveau beaucoup plus pragmatique, les cours que je donne en STAPS, par exemple, soit dans la préparation au concours, CAPES,
oui, parce
agrégation,
que tu donnes aussi des cours pour le CAPES et l'agrégation.
Là, c'est vraiment le lieu où la synthèse se fait, puisque les futurs professeurs de PS ou les futurs lauréats d'un concours doivent se situer à l'interface entre la recherche et la pratique d'intervention. Donc là, je fais également la synthèse.
D'accord. Et une dernière question, j'ai vu que Gaston Bachelard avait tendance à revenir un petit peu dans tes travaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un auteur qui compte pour toi, qui a nourri tes travaux?
Alors Bachelard m'intéresse grandement dans sa version épistémologique. Je ne suis pas un spécialiste de ce que Bachelard a pu faire sur la poésie.
Bachelard a fait des choses vraiment très différentes.
Voilà, les deux casquettes. Donc, dans sa version épistémologique, c'est quelque chose qui m'intéresse réellement dans la lutte contre le préjugé. À savoir, pour Bachelard, toute vérité, c'est un repentir intellectuel. Donc, on construit de la connaissance contre une connaissance antérieure.
D'accord.
Donc, c'est cette vision un petit peu dynamique et autocritique de la connaissance qui m'intéresse chez Bachelard. Et je pense que cette logique d'autocritique est ce qui anime le chercheur, ce qui anime le formateur, ce qui anime le praticien. Donc c'est vraiment, disons, une sorte d'hygiène de vie intellectuelle qui m'intéresse. Et je pense qu'à un niveau plus fondamental, on a tendance un petit peu, à l'heure de l'américanisation, de l'anglomanie absolue, à dénigrer parfois des auteurs français, qui sont parfois plus étudiés à l'étranger qu'en France.
Ouais.
Donc moi, je n'ai pas de fascination particulière pour ni la langue anglaise, ni pour l'épistémologie anglo-saxonne. Je lis ce qui se fait, mais je trouve que ce n'est pas un argument pour dénigrer et abandonner complètement les réflexions des épistémologues. Donc voilà, je m'intéresse à Bachelard au même titre que je m'intéresse à Edgar Morin, à Canguilhem, mm-hmm. À Berthelot ou à des épistémologues plus pratiques du type Lahire à partir de ses travaux en sociologie, d'accord. Mène également des réflexions de type épistémologique.
Eh ben, merci Mathieu, on reste sur cette belle idée finalement d'une hygiène intellectuelle qui anime un petit peu ta démarche, et ça va avec finalement ce qu'on dit assez souvent, l'esprit sain dans un corps sain, c'est une hygiène de vie qui est à la fois physique et intellectuelle. Alors merci pour cette rencontre réalisée dans le studio de Transistor, merci à Léo, à la technique malgré son rhume et sa toux qui le hante beaucoup. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro de Parce qu'ils le valent bien, la toute nouvelle émission de Transistor, et je rappelle que c'est Mathieu, notre invité, qui a choisi la playlist de l'émission, une émission que l'on termine avec Instant Crush des Daft Punk. Au revoir Mathieu.
Au revoir, merci beaucoup.